France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Michel Siffre et une brève histoire du temps. En juillet 1962, ce jeune étudiant niçois, fou de spéléo, se lance dans une expérience scientifique inédite. Vivre 60 jours au fond d'une grotte, seul, avec pour compagnon une tente, des disques, de Luis Mariano en l'occurrence, et des boîtes de ravioli. Privé de montre et de toute autre espèce de repère temporel, il n'est relié à la surface que par un téléphone avec lequel il envoie ses impressions. L'objectif scientifique de la mission, c'est de comprendre le rythme biologique naturel de l'homme. Les conclusions qu'il tirera de cette expérience d'isolement bouleverseront nos certitudes jusqu'à intéresser la NASA. Elles permettront également à Michel Siffre de contribuer à l'essor d'une discipline scientifique, la chronobiologie, mais aussi d'entrer dans le club fermé des grands explorateurs français du XXe siècle. Entre Jacques-Yves Cousteau, Haroun Taziev ou encore Katia et Maurice Kraft, on trouve donc ce chercheur spéléologue héroïque, trop vite balayé de notre mémoire collective. Notre invité aujourd'hui, Christian Clos, explorateur, chercheur, auteur des Clés de l'adaptation humaine, livre paru chez De Noël en 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Malandras, rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation, Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Lundi 16 juillet 1962. Un soleil d'été glisse entre les cimes calcaires des Alpes franco-italiennes. Sur un plateau du massif du Margueris, au bout d'un sentier escarpé, à 2000 mètres d'altitude, quelques toiles de tente sont plantées. Dans l'une d'elles, entortillé dans son duvet, un homme se réveille en sursaut, Michel Siffre. Les yeux écarquillés et les cheveux ébouriffés, le jeune explorateur de 23 ans regarde sa montre qu'il abandonnera vite. C'est la dernière fois qu'il la regarde. 10h15, le 16 juillet 62. Voilà, c'est le jour J. Après des mois à chercher des financements, des semaines à se préparer et une dernière nuit agitée, son expérience va enfin pouvoir commencer. Et elle s'annonce particulièrement délicate. Cet étudiant en géologie et spéléologue amateur s'apprête en effet à passer 2 mois seul, perdu dans les entrailles de la Terre, à 130 mètres de profondeur. En termes de confinement, le Covid apparaît ainsi comme une aimable plaisanterie. Mais dans quel but cet isolement ultime ? Il explique lui-même.
Nous avions découvert l'année précédente, dans le massif du Margueris, au nord-est de Nice, à plus de 2000 mètres d'altitude, un gouffre au fond duquel il y avait un glacier souterrain. Et c'est ma soif d'apprendre comment s'était formé ce glacier souterrain qui m'a donné l'idée de rester sous terre. Et ce n'est que plus tard, en préparant l'expédition, en me disant je vais rester 15 jours, puis en me disant je peux étudier l'action du climat souterrain sur l'homme, je me suis dit il faut rester 2 mois, ceci de manière arbitraire. Et puis j'ai eu l'idée qui est devenue l'idée de ma vie, qui a été de ne pas emporter de montre et d'inventer un protocole expérimental très simple, appelé « Vivre spontanément selon mes pulsions élémentaires », appeler l'équipe de surface quand je me réveillais, quand je mangeais, quand je me couchais, pour établir mon rythme veille-sommeil. Et sans le savoir, j'allais être le premier humain à montrer que l'homme avait une horloge biologique.
Alors il dort quand il a sommeil, il mange quand il a faim, sans se préoccuper des horaires habituels. Et au moment de chaque réveil et de chaque repas, il donne systématiquement une estimation du jour et de l'heure. En comparant avec la véritable date de son départ, on pourra calculer le décalage et pourquoi pas faire avancer l'état de nos connaissances. À la fois scientifique et cobaye de sa propre expérience, Michel Siffre s'apprête à sauter dans l'inconnu. Mais d'abord, il faut se réveiller. Une tasse de café à la main, il s'étire une dernière fois face au soleil du matin. Autour de lui, son équipe s'active. Collègues spéléologues, amis de la première heure, mais aussi gendarmes. En tout, ils sont une quinzaine à l'avoir suivi dans son projet fou. Pendant des jours, ils ont acheminé des tonnes de matériel depuis Nice. Un groupe a monté le camp de base, tandis qu'un autre s'est occupé d'installer les échelles, la ligne téléphonique, la tente et les vivres dans la grotte. Et aujourd'hui, enfin, tout est prêt.
Le gouffre est à 2200 mètres d'altitude, dans 130 mètres de profondeur. Il faut une véritable expédition. Les gars ont commencé à descendre tout le matériel, la nourriture, tout ça. On descendait la nourriture dans des petits sacs plastiques. 30 cm de haut, 15 cm de diamètre, des sacs de plage. Alors, il en fallait beaucoup. Et finalement, tout a été prêt pour le jour où je suis descendu.
Le regard perdu dans la montagne, Michel Siffre soupire. Va-t-il réussir ou bien se dirige-t-il vers une mort certaine? Après tout, personne n'a vécu dans une grotte plus de 3 semaines. Et on connaît mal les effets sur la santé d'un confinement aussi radical. D'ailleurs, dans les mois qui ont précédé, ils sont nombreux à avoir suggéré au jeune aventurier de renoncer. Parce que, non seulement la moindre blessure pourrait le condamner, mais de surcroît, l'absence de lumière et donc de vitamine D risque d'affaiblir son organisme. Pour couronner le tout, la grotte qu'il a choisie semble particulièrement hostile. Située à quelques kilomètres du camp, nichée à 130 mètres en sous-sol, le gouffre de Scarasson est un glacier souterrain où la température est négative et où l'humidité frôle les 100%. Pourtant, pour Michel Siffre, c'est une évidence. L'idée de cette expérience hors du temps, c'est ici qu'elle a germé, un an plus tôt, comme il le raconte quelques heures avant son départ à un journaliste de la RTF.
Michel Siffre, pourriez-vous nous dire dans quelles conditions vous allez réaliser cette expérience?
Eh bien, je vais rester pendant 1000 ou 1500 heures au fond d'un gouffre sur un glacier souterrain, dans des conditions climatiques dures, avec moins 1 degré et 100% d'humidité.
Quel est ce gouffre?
C'est le gouffre du Scarasson, profond de 130 mètres, que nous avons découvert l'année dernière.
Alors, qu'allez-vous faire au fond de ce gouffre?
Eh bien, au fond de ce gouffre, je vais vivre en partie dans une tente, je vais travailler et je vais faire des recherches et des études glaciologiques et géologiques. Mais l'intérêt de cette expérience, c'est surtout les modifications biologiques et physiologiques qui vont se produire sur moi en fonction de ce séjour prolongé et à l'abri des radiations solaires. Et il est bien évident que, en un mois, certaines réactions chimiques ne vont plus se produire et qu'on pourra observer sur moi des modifications biologiques.
Malgré les risques, Michel Siffre peut compter sur quelques appuis. Ses fidèles amis du club de Spéléo de Nice, on l'a dit, mais aussi cet officier de la section montagne de la 6e CRS qui a mis à disposition ses hommes en soutien logistique, ainsi que l'alpiniste Maurice Herzog et le naufragé volontaire Alain Bompard, deux célèbres aventuriers qui ont ouvert leur carnet d'adresses et leur chéquier. Mais aussi grâce au sacrifice personnel du jeune Spéléo et de celle qui le suit depuis le début, sa mère. Convaincue de la vocation de ce fils nomade et turbulent, cette femme modeste est sa plus grande admiratrice. C'est elle qui lui a suggéré d'aller frapper aux portes pour trouver des parrainages. Et même s'il s'est endetté jusqu'au cou, Michel sait qu'il lui doit tout. Alors, il ne veut pas la décevoir, quitte à flirter avec l'imprudence, comme il le racontera des années plus tard sur France Culture dans l'émission Une histoire particulière.
C'est marche ou crève, hein. Enfin, du moins, c'était le concept que j'avais de la vie. Ça marche, ça marche. Tu as pas de peau, tu meurs. Point.
Ça y est, vers 14h, le départ est lancé. Après un dernier appel à sa mère restée à Nice, Michel Siffre enfile sa tenue, combinaison, bottes, casque, puis retire sa montre qu'il confie à un CRS. Ensuite, il salue ses camarades du camp avant d'emprunter le sentier qui mène au gouffre. Arrivé à la fissure qui marque l'entrée du puits, il retrouve deux autres collègues spéléologues. Eux ont pour mission de le guider jusqu'à la tente, puis de mettre en place les dernières installations. Après avoir allumé leurs lampes fonte à la gaz, les trois hommes s'engagent dans la crevasse. Marche après marche, ils descendent le long de l'escalier en aluminium. Et peu à peu, la lumière se fait rare, la température baisse et l'humidité grimpe. Le monde des humains s'éloigne. Après une vingtaine de mètres, Michel Siffre fait une découverte inquiétante. L'une des cordes de l'échelle a été sectionnée. Le spéléologue sait tout de suite ce que ça signifie. Un éboulement récent a eu lieu. Et la chute de pierre dans une grotte. C'est comme le grisou dans une mine, la hantise de tous les explorateurs souterrains. D'ailleurs, lors de ses précédentes visites, Siffre avait tout fait pour s'assurer de la stabilité de l'endroit. Alors, pendant une seconde, il hésite. Faut-il remonter ?
Là, j'ai failli reculer quand même. J'ai failli me dire, bon, je descends pas, Michel, tu es fou. Faut pas descendre, tu vas y rester. Mais bon, les a minimisés. J'étais pris dans le système. La fierté, le fait de s'être engagé, a fait que je suis descendu. Il n'était pas question de refuser.
Quelques minutes plus tard, à une quarantaine de mètres de la surface, vient la difficulté principale du parcours. Le franchissement d'un étroit goulet, qu'on appelle Châtière. Petite cheminée naturelle, elle étrangle l'air et coupe la lumière. Après son passage, la voie se retrouve plongée dans un noir quasi complet. Les derniers mètres se font presque en aveugle. Guidés par le son des ruissellements du glacier et des gouttes qui s'écrasent contre la pierre, les trois hommes parviennent enfin à leur destination, une cavité plane, à peine plus grande qu'un studio parisien, logée entre des parois rocheuses noires et un mur de glace luisant, claustro-sapsonir. Guidé par sa lampe qui transperce péniblement l'obscurité, Michel Siffre découvre sa maison pour les deux mois à venir. Une tente rouge posée sur un plancher de bois, 4,50 m de long, 2,50 m de large, 1,70 m de haut. Tout autour, des tonnes de vivres jonchent le sol, de la nourriture, de l'eau en boîte, surtout, mais aussi des fromages, des œufs et un jambon de pays. Ainsi que le mobilier et les équipements, une table, un lit de camp, un fauteuil, un réchaud à gaz, une platine, une poignée de 45 tours, des piles de rechange et surtout, le téléphone. À cause du budget restreint, ses collègues ont fait le choix d'un vieil appareil de campagne de la guerre 14-18. Rustique, évidemment, mais solide. Pour la même raison, ils n'ont pas pu acheter d'extincteur et la tente n'est pas inifugée. Michel Siffre ne doit donc jamais y pénétrer avec son casque et sa petite lampe à gaz frontale. Quand il découvre l'intérieur, c'est la première déconvenue. Le sol est trempé. À cause d'une mauvaise fixation au niveau du plancher, une importante condensation s'est formée et l'humidité de la grotte s'est déjà infiltrée un peu partout. Et ce n'est pas son seul motif d'inquiétude. Alors qu'il observe la paroi au-dessus de la tente, il découvre plusieurs fissures remplies de glace. Ce qui veut dire que la corde coupée de l'échelle n'était pas un accident et le risque d'éboulement est bien réel. Cependant, malgré tous ces problèmes, hors de question d'abandonner. Avec ses deux collègues, Sif s'attelle au montage. Les meubles sont assemblés, l'installation électrique est posée et les vivres rangés. Après quelques heures de travail, c'est le moment des adieux. Le spéléo serre la main de ses deux amis avant de les observer remonter l'échelle.
Je suis assis sur un bloc de la moraine au bas du puits. J'entends le dernier gars spéléo qui monte. J'entends le cliquetis des échelles. Puis ils arrivent au sommet du puits, ils me disent au revoir. Et puis là, je commence à entendre des sons qui s'affaiblissent. Puis je me retrouve seul dans le silence absolu. Alors là, ça m'a foutu un coup quand même, hein. Ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis dit, tu tiendras pas. Et puis, bon, la volonté, bon, je suis quand même un homme de volonté. Tu peux pas échouer, tu es descendu. Tu peux pas ne pas le faire et tu peux pas ne pas réussir.
Assis sur son bloc, surmonté d'un puits noir de 40 mètres, Michel Siffre contemple enfin le silence des entrailles. Piégé volontaire dans ce monde minéral qui le fascine tant, coincé entre des tonnes de glace, des boîtes de cassoulet et quelques formes de vie primitives, il peut enfin débuter son expérience hors du temps. Avec son ressenti comme seule horloge, il organise un quotidien calqué sur nos habitudes terrestres. Autrement dit, au réveil, il prend son petit déjeuner, puis se dégourdit les jambes, fait un peu de rangement dans sa tente avant de déjeuner au milieu de la journée. Ensuite, eh bien, il écrit dans son cahier de vie souterraine en écoutant un disque, ou bien il observe le glacier. Et puis il dîne, lit quelques pages de son livre et va se coucher. De toute façon, le jour et la nuit n'ont plus de sens ici, il fait toujours noir. Et bien sûr, pour chaque étape importante, sommeil ou pas, Siffre décroche le téléphone et informe le camp de base.
Allô ? Allô, ici le fond. Bon, ben je pense, je me lève, je crois à peu près qu'il est 8 heures. Maintenant, je vais un peu ranger ma tente.
Malgré ses débuts encourageants, Michel Siffre doit faire face à un premier problème pratique, l'humidité du sol, qui s'accumule et qui lui gèle les pieds. Dès les premiers jours, sa température corporelle chute à 34 degrés. Et comme l'espace est trop petit pour faire la moindre activité physique, il n'arrive pas à la faire remonter.
Je fixe cet espace noir et infini. Et je me dissous. Je n'existe plus.
Calfe traîne dans sa tente, en hypothermie constante. Le spéléo doit aussi habituer ses yeux à cette couleur qui recouvre tout le noir. Pour l'apprivoiser, il développe une étrange habitude. Éteindre toutes les lumières et s'asseoir dans l'obscurité, face au vide glacé de la grotte.
J'ai très peu marché. Je me calfeutrais un peu dans la tente. Parce que tout le reste, c'était de la roche noire, pure et dure. Sauf la paroi de glace, qui était un peu plus claire. Mais le reste était noir. Et le noir, c'est pas bon, quoi. Sur le plan psychologique, ça vous fout un peu le tournis, hein.
Allô, Michel ? On coupe, hein ?
Une semaine passe, ou peut-être deux. La vie souterraine dans l'aveugle a catapulté le spéléo dans un monde sans référent. Alors, pour combattre l'absence de stimuli, il redouble d'efforts intellectuels. Régulièrement, il met son casque, allume sa lampe et inspecte le glacier. Et, sur son carnet, il note l'évolution des écoulements et les changements morphologiques de la paroi. De retour dans sa tente, il peut compter sur la présence rassurante d'un petit animal des profondeurs, une araignée translucide. Capturée, puis installée dans un bocal en verre, elle devient la confidente de l'aventurier. « Mon araignée va bien », note-t-il dans son carnet. « Je lui donne un petit bout de fromage et je la regarde déjeuner. » Pourtant, malgré cette amitié naissante et sa volonté de faire, Michel Siffre se laisse progressivement envahir par la monotonie des lieux et des événements, ou plutôt des non-événements. Et bientôt, il se met à douter de tout. Tiens, cette fissure, l'a-t-il découverte à l'instant ou a-t-elle été toujours là ? Et ce repas, vient-il de le finir ou bien l'a-t-il mangé la veille ? Vient-il de passer 2 heures ou 1 minute avec son araignée ? Malgré les appels quotidiens en camp de base et une prise de notes régulière dans son journal, l'aventurier ermite doit bientôt se rendre à l'évidence. Sa mémoire se dilate, se fractionne, s'estompe.
Allô, ici Michel au fond du gouffre, est-ce que tu m'entends en surface, Marc ? Allô ? Allô, ici le fond. Il est environ 16 heures pour moi. Je suis un peu fatigué maintenant, j'ai sommeil. Hein.
Exténué, Siffre s'endort à toute heure. Emmitouflé dans son duvet, il se met à faire des rêves lucides, comme celui où sa mère le réveille en ouvrant les volets. Mais c'est toujours la même obscurité qui l'accueille au saut du lit. Et là, tout est déréglé. Siffre ne sait pas vraiment s'il vient tout juste de fermer les yeux ou s'il a passé une nuit complète. Léthargique, il pioche alors un disque dans sa petite réserve, puis le pose sur la platine.
Il n'y avait pas 33 tours, j'avais que quelques 45 tours. Des disques de Mariano que j'écoutais en permanence. J'avais que 3 ou 4 disques, pas plus. Et ça m'a aidé, hein, ça m'a beaucoup aidé. Et alors, j'avais au fond un micro d'ambiance, et eux, ils avaient des écouteurs, ils pouvaient m'écouter 24 heures sur 24. Ce dont mes camarades s'étaient rendus compte, c'est que parfois, il m'est arrivé de mettre 10 fois la même face du disque parce que je ne me rappelais pas que je venais de mettre le disque.
Alors qu'il relance la chanson une énième fois, Michel Siffre distingue des bruits suspects venus d'au-dessus de sa tente. La glace gondole et craque dans les fissures. Bon allez, tant pis, demain ça ira mieux.
Maman, c'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras tu m'étomberas. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans trêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Michel Siffre.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Drouel.
J'ai fait un rêve. Drouel. Maman avait ouvert les yeux.
Début août 1962, gouffre de Scarasson, frontière franco-italienne. Au fond d'un trou de 130 mètres, Siffre mène une vie au ralenti, dans le noir. Ça fait 3 semaines que cet aventurier de 23 ans a commencé une expérience d'isolation sensorielle un peu folle, passé 2 mois seul dans le monde des profondeurs, une grotte sans montre ni repère temporel. Entre léthargie, déprime et euphorie, l'ermite tue littéralement le temps. À coup de sieste, de disques de Luis Mariano et d'observations géologiques, simplement reliés à une équipe de surface par une ligne téléphonique.
Allô ? Michel de l'appareil. Bien. Bon, je me lève. Pour moi, c'est 23 heures maintenant.
Pour moi, c'est 23 heures maintenant. Mes aliments tendent à pourrir. Il y a. Je ferai des prélèvements. J'en ai mangé un peu pour voir.
Autour de lui, ses premières semaines ont laissé des traces. De chaque côté de la tente, des dizaines de boîtes vides et des morceaux de fromage pourri par l'humidité gisent sur la roche. Mi-moine, mi-animal, Michel Siffre a quitté une à une des conventions sociales pour faire corps avec les abysses. À tel point que la solitude et l'obscurité le conduisent à créer des situations étranges. Avec son araignée, notamment, qu'il nourrit chaque jour de fromage. Ah, sauf que ce régime finit par être fatal à l'arachnide. Un matin, ou peut-être un soir, Michel Siffre la découvre inanimée dans son bocal. Il a tué son seul compagnon. C'est un choc, écrit-il dans son carnet de bord, une grosse déception. Mais il n'a pas le temps de faire son deuil, si je puis dire. Car quelques mètres plus haut, un bruit inquiétant se fait toujours plus insistant. Celui de la glace qui craque entre les fissures de la paroi. En langage spéléo, ça signifie une chose, risque imminent d'éboulement. Alerte rouge.
Ah, qu'est-ce que j'attendais ?
Oui, j'entends.
Oh là là là. Regardez un peu le...
Oh là là. Allô Michel ?
Quoi ?
On coupe, hein ?
Oui.
Une fois le combiné raccroché, le spéléo est sous le choc. Après un rapide tour de son camp, il peut souffler. La roche et la glace qui se sont décrochées de la paroi n'ont rien endommagé. Mais cet éboulement a une conséquence inattendue pour l'emmuré volontaire. Avec la montée d'adrénaline, son corps s'est mis en alerte et sa température interne remonte. Rabigoré donc, mais fébrile, Michel Siffre retourne dans sa tente, porté par une nouvelle sensation, l'effroi. Tremblant de tous ses membres, il passe les journées suivantes un œil toujours ouvert. Désormais connecté à ce glacier ancestral, il adopte une position philosophique digne d'un héros tragique. Accepter son destin la peur au ventre et finir, quoi qu'il arrive, ce qu'il a commencé. Le nez dans son cahier de vie souterraine, il griffonne quelques phrases, puis remonte le fil des événements passés. D'après ses observations, nous sommes le 20 août. Ça fait donc un peu plus d'un mois qu'il vit ici. Et dans 3 semaines à peine, il sera dehors.
Dis-moi un peu, quand sera venu le moment de ta sortie ?
Oui.
Tu veux qu'on te prévienne combien de temps à l'avance à peu près ?
Il faut que l'équipe qui vient de me rechercher commence à descendre le samedi.
Michel ?
Oui ?
Enfin, dès que tu te lèves là, hein ?
Oui.
Bah, tu te prépares ?
Comment ?
Dès que tu te lèves, tu te prépares ?
Non. Tu me blagues ou pas ?
Ah non, je ne passe pas, Michel.
Demain ?
Oui, oui.
Pour toi et demain pour moi ? Non, c'est pas possible.
Parce que alors maintenant,
ah oui,
on te dit la date. On est le 14 septembre.
Hein ?
On est le 14 septembre.
Non, c'est pas possible, mon vieux. Mais je suis en retard de plus de
25 jours.
25 jours ?
Mmh.
25 jours de décalage ?
Ah,
ah ! C'est formidable.
Oui, Michel, 25 jours. Tu t'es trompé de 25 jours. Et c'est près de la moitié de ton séjour. Ce temps de coton, qu'on imaginait passer si lentement, filait en réalité 2 fois plus vite. L'aventurier n'en revient pas. Il passe ses 3 derniers jours dans la grotte, dans un mélange d'excitation et d'épuisement. Puis, le 17 septembre, il enfile son matériel de remontée et s'engage sur l'échelle. Enfin, il peut dire adieu à son navire et bonjour à la vie, la vraie, celle qu'on partage avec les autres. Après plusieurs heures d'ascension et pour la première fois en 60 jours, il aperçoit un filet de lumière qui frappe la pierre. Timide au départ, le rayon apparaît de plus en plus aveuglant. Comme une fleur agonisante qui cherche le soleil, Siffre jette ses dernières forces et tire tout droit vers le ciel. Mais bientôt, la luminosité est trop forte pour ses yeux de chauve-souris. Le regard plissé, il farfouille dans ses poches d'où il sort un masque de ski, qu'il devra porter quelques heures, le temps que sa vue se réhabitue. Puis, après quelques mètres gravis dans une souffrance absolue, il discerne enfin la surface. Agglutiné autour du puits, une 50aine de personnes voient son casque apparaître. Il y a là les membres de son équipe, bien sûr, mais aussi des passionnés qui ont suivi ses aventures, de loin, ou encore des journalistes venus de tout le pays, comme cette caméra de l'ERTF.
Il vient de séjourner seul, 2 mois, à 130 mètres sous terre. Michel Siffre a réussi. Pour tous ses amis, pour les journalistes qui étaient venus là l'accueillir, le moment de sa sortie fut un moment d'angoisse. En effet, Siffre, épuisé par son séjour souterrain, n'avait plus la force de monter lui-même les échelles. Il a fallu lui passer un harnais, le tirer, le haler jusqu'au soleil.
Les genoux flageolants, le visage envahi par une épaisse barbe, Michel Siffre est soutenu par une poignée de collègues, puis allongé sur un brancard, où un médecin essaye de prendre sa tension. La scène est enregistrée, toujours par l'ERTF.
Tiens, je tremble, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mon petit, je vois mes mains qui tremblent.
Voilà, bougez le moins possible maintenant, on vous le... Voilà, bougez le moins possible votre bras, on est en train de mesurer votre tension. C'est l'affaire d'une minute.
Je donne... Tension 8,5,
8,5. Tension 8,5, 8,5, la minima à 4,5.
C'est une hypotension... Oui. Pas dangereuse.
C'est très bien. Son pouls se ralentit maintenant. Il a l'air de... Il se ralentit et il se renforce. Hein. Je crois que c'est la position verticale qui a été très pénible pour lui. Dès qu'il a repris sa position horizontale, le sang irrigue mieux le cerveau et... L'oxygène le ravitaille, il respire mieux.
Après avoir repris les forces, on le rapatrie au camp de base, où il répond à quelques journalistes. Sa mine apeurée et sa voix chevrotante marquent les esprits.
Vous avez eu peur ?
Peur, ça se compare pas. Peur, c'est affreux, quoi, la peur. La peur, je commence à en être saturé, la peur maintenant, pendant que je vais me calmer un peu quelques mois. Hein.
Marqué à jamais par la peur, vacciné à l'idée de recommencer, Siffre décide de se calmer non pas quelques mois, mais 10 ans. Peu après son retour en surface, il se fait cette promesse, aucune claustration volontaire avant 1972. Remis sur pied, il rentre à Nice où il retrouve sa mère. Quand il la découvre sur le pas de la porte, les yeux emplis de fierté, il la serre dans ses bras. Parce que sans son soutien permanent, rien n'aurait été possible. Pourtant, l'expérience n'est pas complètement terminée. Désormais, il faut passer au crible toutes les données qui ont été recueillies pendant 2 mois. Alors, après quelques jours de repos, Siffre file à Paris, où il retrouve quelques collègues. Sur un grand bureau, les carnets de bord de surface et du fond sont disséqués. Heures de lever, de repas, de coucher, tout est comparé. Et surprise, alors qu'on imaginait le rythme biologique du spéléo anarchique, il est en réalité structuré et cohérent. Car même s'il s'est trompé de 25 jours, chacun des cycles veille-sommeil de l'aventurier a la même durée moyenne. C'est aussi le fameux hiatus entre le temps et la durée. L'un est incompressible, l'autre est du domaine du ressenti. C'est ainsi que même hors du temps et de l'espace, notre horloge n'échappe pas à l'ordre du cosmos. Pour communiquer ses découvertes, Siffre commence la rédaction d'un livre. Installé dans un petit chalet de Morzine, il reprend son carnet de bord, qu'il agrémente d'anecdotes personnelles, de conclusions scientifiques et de considérations philosophiques. Le texte est publié au printemps 63 chez Julliard, sous le titre « Hors du temps ». Et c'est un succès immédiat. Le jeune spéléologue devient le héros de milliers d'écoliers qui rêvent d'aventure dans les tréfonds de la Terre. Dans le milieu scientifique également, le livre connaît un certain retentissement. Ainsi, le Roumain Franz Halberg, fondateur de la chronobiologie moderne, utilise les données de Siffre pour approfondir ses recherches. Et puis encore plus à l'Est, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, fait l'éloge du livre, en particulier les passages sur les pertes de mémoire. Dans ce 20e siècle tourné vers la conquête spatiale et les voyages vers l'inconnu, il est important, nécessaire même, de se pencher sur les effets d'un confinement sensoriel prolongé. Justement, pour son expérience suivante, Siffre est recruté par l'institution spatiale la plus célèbre du monde, la NASA. Nous sommes maintenant 10 ans plus tard, donc en 1972. En janvier, le spéléologue de 33 ans prend l'avion pour Houston, Texas, où se trouve le célèbre centre de commandement de l'agence américaine. L'expérience promet d'être 3 fois plus longue que celle de Skarason. En tout, Siffre devra passer 205 jours sous terre, soit environ 7 mois. Ainsi, le Niçois retrouve la vie souterraine. Mais cette fois, les conditions sont beaucoup plus confortables. La grotte, appelée Midnight Cave, est spacieuse, aménagée comme un hôtel, une chambre d'hôtel. Oui, lit douillet, bureau, bibliothèque, rameur, mais aussi petits plats concoctés pour les membres d'Apollo 16. Le spéléologue est dorloté par les Américains. Surtout qu'à la différence de Skarason, cette grotte ne présente aucun danger. Ici, en effet, aucun risque d'éboulement. Et grâce à un système de chauffage et de ventilation, l'endroit est maintenu à une température constante de 21 degrés. Idem pour le recueil de données, Siffre est collecté un tout un tas d'appareils et de sons dernier cri. De cette façon, l'équipe de surface peut analyser en direct son comportement et son état physique. Dans ce contexte presque luxueux, le spéléologue aborde l'expérience détendue. D'ailleurs, sur les premiers enregistrements, il apparaît beaucoup plus calme et relaxé que lors de sa première descente.
J'écris en général. Parfois, je ne fais rien, je pense. Ça m'arrive très souvent le matin, assis à ma table de travail. Et souvent, j'ai des idées, donc je les note et je prépare le futur. Mon futur, mes expériences ou mes expéditions futures.
Plus cobaye que chercheur, Siffre se retrouve dans un état d'esprit à milieu de ce qu'il a vécu 10 ans plus tôt. Plus tranquille, certes, mais aussi beaucoup moins attentif à son environnement. Sans peur pour sa vie, sans froid qui ronge les os, l'aventurier se perd facilement dans ses pensées. Au bout de 2 mois, la solitude est telle qu'il craque. Un soir, il retire sa sonde rectale qui enseigne sur sa température corporelle et il menace de tout arrêter. Mais après réflexion, il se ravise. Et 5 mois plus tard, il boucle l'expérience, épuisé et en proie à une profonde dépression. Les premiers jours en surface n'arrangent rien. Et puis la faute n'a pas de chance, alors qu'il espère profiter des retombées médiatiques, le spéléo de l'extrême se fait voler la vedette par un événement dramatique, la prise d'otage au JO de Munich. De retour en France, déprimé et endetté, il renfloue les caisses en écrivant des livres et en tournant des documentaires. Et la vie en surface est parfois tout aussi difficile que celle des profondeurs. Sans femme ni enfant, seul dans une petite maison sans chauffage, l'aventurier broie du noir. Les années passent, la popularité s'estompe. Malgré une troisième expérience dans la grotte de Clamouse au tournant du millénaire, dans le but d'étudier les rythmes biologiques des personnes âgées, le nom de Michel Siffre tombe peu à peu dans l'oubli. Reclus dans son modeste studio niçois de la rue Trachel, érémiste vivant au milieu de ses milliers de notes et de dossiers, le spéléologue commence l'écriture de ses mémoires. Mais quand sa vieille mère meurt, il abandonne. Sans elle, tout ceci n'a plus vraiment d'importance. Et puis le 25 août 2024, il la rejoint. Après 85 ans passés sur Terre et dans ses entrailles, Michel Siffre glisse une dernière fois sous la surface. Pour l'éternité. Michel Siffre, à jamais hors du temps. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'aventure de Michel Siffre, dont nous parlons avec un autre aventurier, Christian Clot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes explorateur, chercheur, conférencier, scénariste, fondateur du Human Adaptation Institute et membre de la Société de Géographie. Votre livre, Les clés de l'adaptation humaine, est paru chez De Noël cette année. Alors, en 2021, vous avez passé 40 jours à 400 mètres sous terre, donc vous savez de quoi vous parlez. Quel regard, justement, portez-vous sur l'expérience de pionnier de Michel?
C'est absolument incroyable d'avoir eu cette idée à cette époque. C'est-à-dire, ouais. C'est quelqu'un qui est un jeune géologue, comme vous l'avez dit, hein, qui fait des études, qui voit ce glacier souterrain et qui a cette capacité à voir plus loin que simplement aller voir un glacier, mais qui comprend qu'il y a beaucoup plus à trouver. Et ça, aujourd'hui c'est facile à dire, mais à l'époque c'était vraiment une idée de génie.
Alors vous, ça s'est passé où et quand ?
Alors nous,
2021, on l'a dit, mais où ?
Dans la grotte de Lombrive, en Ariège française. Alors nous, moi, j'étais pas seul, on était 15 avec cette femme et cet homme.
C'est différent, une
expérience
ça,
de groupe. Oui, c'est-à-dire que, étonnamment, ce genre d'expérience n'avait jamais été fait en groupe. Alors il y a eu plusieurs expériences solitaires, dont Michel Siffre a initié, et puis ensuite il a mis d'autres personnes dans des gouffres. Mais ça n'avait jamais été fait en groupe, en collectivité. Mmh. Et finalement, nous, on vit en collectivité, donc c'était important d'avoir cette étape supplémentaire aujourd'hui, de comprendre les rythmes biologiques, mais dans un groupe.
C'est vrai qu'être seul, c'est difficile, mais être à 15, ça doit être aussi difficile. C'est un autre challenge. Hein.
C'est très différent, mais c'est une expérience qui reste fabuleuse. Je crois que les 15 personnes qui ont vécu cette expérience en ressortent avec quelque chose de très très fort, parce que finalement, nous, on n'a pas eu ce que pratiquement tous les solitaires ont vécu, à savoir ces moments de dépression, de perte de compréhension. Nous, on a su, grâce à la collectivité, dépasser ça, et finalement vivre une expérience assez incroyable.
Oui, mais pas de tension, parce que la collectivité, c'est comme sur un bateau, hein, ça. Il n'y a pas d'échappatoire.
Hein. Bien sûr, il y a toujours des tensions dans un groupe, mais la question c'est ce qu'on en fait, et là en l'occurrence elles étaient bien traitées, et puis ce qui est fabuleux c'est comme on avait chacun notre rythme, puisque chacun était à son rythme, chacune et chacun, et bien finalement on se communiquait par des mots sur un tableau, et quand il y avait un conflit, on le résolvait, on mettait la résolution du conflit, et ensuite on appliquait les nouvelles entre guillemets règles, et c'était assez génial de voir
ça. Quelle micro-société quand même.
Une micro-société qu'il fallait recréer entièrement, parce que quand on peut plus donner rendez-vous, comment est-ce qu'on fait pour faire société? Ça c'était passionnant.
Alors je vais vous poser une question un peu puérile, mais j'assume, parce que tout le monde le fait. Avez-vous eu peur ?
Ah bien sûr, moi j'étais le créateur de la mission, donc quand je mets 15 personnes dans cette grotte, sachant tout ce qui s'était passé avec les solitaires, j'ai très peur qu'il arrive quelque chose de difficile, que les équipes que je mets dans cette grotte, la grotte de Lombrive, tombent aussi en dépression. Mmh. Et très rapidement, cette peur disparaît. Parce que je vois que la collectivité va réellement être capable de prendre le pas sur cette crainte de la dépression.
Alors, votre rapport au temps a-t-il changé? Parce que c'est la question fondamentale de ce genre d'expérience. Et expliquez-moi ça, parce que nous tous, on est aussi confrontés à ce fameux hiatus entre le temps et la durée, si ressenti si différemment d'ailleurs quand on est enfant et adulte. Bref, quel a été votre rapport au temps?
Oui, alors tout d'abord, comme tous ceux qui ont vécu cette expérience, on va décaler nos rythmes. Chacune et chacun va trouver son rythme. Alors ce qui est très nouveau dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'a pas du tout découvert qu'il y avait un rythme biologique qui rythmait l'ensemble des humains. Chaque humain qui était dans cette grotte a eu son propre rythme biologique, sa propre durée de sommeil et de veille, avec des personnes qui avaient des veilles jusqu'à 50 heures et des sommeils jusqu'à 30 heures, et d'autres qui avaient des sommeils beaucoup plus courts.
Ah oui,
sans qu'il y ait un rythme spécifique qui s'installe. La seule chose qui a été constante, c'est que le pourcentage entre le temps de sommeil et le temps de veille est resté relativement constant pour chaque personne en rapport à sa propre biologie. Donc ça c'est intéressant. Après il y a deux temps qui sont importants, c'est qu'évidemment on a décalé, on était à une trentaine de jours au lieu de 40 quand on est venu nous chercher, d'autres étaient à 24 jours, donc c'était assez fabuleux. Et puis il y a le plus extraordinaire pour nous, ce que peut-être Michel Siffre n'a pas vécu à l'époque, c'est que nous on a une rupture totale de tout ce qui est aujourd'hui fait le temps. C'est-à-dire qu'on a des notifications, des emails, des sons, des machins. On est surchargé cognitivement d'informations et là, on les coupe totalement. Et c'est un bonheur absolu.
On devrait obliger tout le monde à faire ça.
Mais au moins, sincèrement.
Peut-être qu'une journée ou deux journées.
Mais on le fait sur trois jours avec des personnes. Ah déjà, oui. Rien que ça, c'est fabuleux. En fait, on se rend compte qu'on a perdu complètement le rythme. On est complètement soumis à un temps qui nous dépasse. Et quand tout d'un coup, on récupère notre propre temps, c'est une sensation extraordinaire.
Est-ce que vous vous emmenez pendant trois jours des touristes sans téléphone, sans montre?
Alors, pas des touristes, mais on fait ça avec des entreprises, par exemple, avec des volontaires, effectivement, pour leur montrer qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on se questionne sur cette notion du temps.
Oui.
Qu'on a totalement perdu. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre l'époque de Siffre et la nôtre, c'est que aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est que le temps, tellement on court derrière lui en permanence.
Et comment ils réagissent alors, sans téléphone portable, sans alerte, sans réseaux sociaux?
C'est la panique, tout le monde me dit, mais attends, mais je pourrais pas, tu me coupes mon portable. Et je peux vous garantir qu'au bout de 24 heures, tout le monde est très heureux en fait.
Et le vrai réseau social, c'était vous finalement?
Le vrai réseau social, c'est l'humain. Effectivement, on reconstate que se parler entre humains, c'est pas si mal en fait.
Alors, on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, mais Michel Siffre a également supervisé les expériences d'autres spéléos. C'est le cas de Véronique Le Guen. Alors, elle a passé 111 jours dans une grotte, c'était en 88. Mais 14 mois après sa sortie, donc en janvier 90, la jeune femme, elle avait 33 ans à l'époque, se suicide. Alors c'est un cas extrême, hein. Mais quel est l'impact d'un confinement volontaire sur la santé mentale?
Il peut être très violent, comme ça a été le cas pour Véronique Le Guen. On ne sait pas vraiment si son suicide est directement associé à cette expérience. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est rentrée pour des mauvaises raisons. Elle rentre parce qu'elle veut se prouver elle-même qu'elle peut le faire. Et puis elle doit exister par rapport à son mari, Francis Le Guen, qui est une célébrité de la plongée de l'époque. Et elle veut exister en tant que personne. Et je crois qu'elle ne rentre pas pour les bonnes raisons. Et du coup, effectivement, cette expérience va être terrible. Et puis, il y a une chose qui m'étonnera toujours, c'est qu'ils se mettaient dans des endroits terribles, des tout petits endroits où on tourne en rond. Moi, la grotte de Lombrive, elle fait des kilomètres et des kilomètres. On pouvait se balader, on pouvait visiter.
Oui.
Donc, on était dans un système de vie. Alors que Véronique Le Guen, comme Michel Siffre, était dans un système de survie. Et on l'entend, les conditions étaient terribles pour vivre là-dedans.
Et par rapport à la vue?
Alors,
c'est important aussi parce qu'on passe ne serait-ce que 40 jours dans le noir.
Là encore, hein, la Siffre, Le Guen et d'autres sont des tout petits endroits, hein, pas beaucoup plus grands que ce studio. Donc ça veut dire qu'effectivement, la vue se perd complètement. Nous, on est dans une grotte assez grande. On a aussi des lumières qui ne sont plus rien à voir avec les lampes à potasse, hein, qui étaient celles de l'époque.
Donc l'œil n'est pas trop perturbé.
L'œil n'est pas trop. Alors il y a quand même des modifications physiologiques. Hein, on n'a pas le temps d'en parler là.
Si,
ça
m'intéresse.
On a fait 50 expériences scientifiques. Évidemment, il y a une modification de la posturologie et de la vision. Parce que nous qui sommes très visuels, on va devoir passer sur des auditions plutôt auditives, sensorielles, par l'odeur et tout. Mais très rapidement, et ça c'est la capacité ultra plastique du cerveau, quand on ressort, on retrouve tout de suite l'aspect visuel. Et en quelques jours, on est revenu à notre posturologie classique. Donc le cerveau a d'une plasticité fabuleuse. En 40 jours, on va modifier un pourcentage conséquent de la matière grise du cerveau et puis en partie de la matière blanche. Et donc on est vraiment quelque chose, l'humain est juste fabuleux dans sa capacité d'adaptation à des conditions extrêmes.
Bien sûr, d'ailleurs, c'est le but de toutes ces expériences, voire l'adaptabilité, j'espère que ça se dit.
Oui, tout à fait.
Ça se dit, de l'humain. Quelles peuvent être les autres conséquences sur les autres parties du corps?
Alors, il y a clairement une chronologie qui se modifie. Donc, en fait, il y a tout un système. On en parlait de la mémoire avec Michel Siffre. Typiquement, quand on est soumis à des conditions aussi extrêmes où tout doit se modifier, on doit éliminer en partie certaines fonctions qui ne sont pas essentielles et on perd un peu la mémoire. Nous, dans la grotte, on a aussi perdu la mémoire. Et les gens n'arrivaient plus à se souvenir ce qu'ils avaient mangé le matin, ce qu'ils devaient faire. Et ça, je l'ai vécu dans toutes mes expéditions parce qu'à un moment donné, il y a une telle contrainte de devoir reconstituer un fonctionnement dans un contexte nouveau que la mémoire n'est plus si importante à ce moment-là. On a aussi parfois des fonctions sociales qui changent un peu. Bref, on modifie pas mal de petites choses. Et le tout, c'est tout un schéma, alors un schéma adaptatif que je résume dans le livre justement Les clés d'adaptation, où finalement on va devoir passer d'un état équilibré à un nouvel état équilibré. Il y a tout un schéma qui dure une trentaine de jours pour y parvenir. Mais moi, je trouve fabuleux de voir comment l'humain peut le faire. Et ça, je crois que c'est un vrai espoir aussi qu'on doit donner aux gens. C'est certes que nos mondes sont en difficulté aujourd'hui, hein, nos climats, tout ça, mais on peut, si on décide de changer, on est capable de le faire avec beaucoup de facilité, en fait.
Les forces de l'esprit.
Ouais.
Alors, cette aventure me rappelle la NASA. D'ailleurs, on a parlé de la NASA. Il y a un certain parallèle, peut-être, à faire avec les cosmonautes, les astronautes, les spationautes qui partent dans les stations spatiales où ils restent plusieurs mois.
Oui, tout à fait. Il y a des similitudes. D'ailleurs, la NASA a évidemment beaucoup étudié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a travaillé avec Michel Siffre. Pas que, d'ailleurs. Hein, elle a regardé ce qu'a fait Bombard. Elle a regardé plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est plus tellement la station ISS. Hein. Certes, ça reste fabuleux, mais globalement, on y va en quelques heures. On y passe quelques temps. On y redescend. La vraie question, ça va être les longues missions, si jamais on devait aller sur Mars. Alors, est-ce que c'est bien de le faire ou pas? La question n'est pas là, mais en tout cas, ce sera 18 mois de voyage dans une petite capsule. Mais là, oui, on est dans un confinement qui est encore différent. Donc, il y a des tas de questions qui se posent. On est consulté là-dessus, d'ailleurs, sur ces sujets avec mon institut. Ce sera des vrais défis parce qu'on va quitter le rapport à la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très nouveau, qui n'a pas encore été fait dans l'histoire de l'humanité, de quitter ce qu'est notre monde terrestre. Même le visuel de la Terre, on va le perdre.
On l'a fait avec la Lune, quand même.
Non, parce qu'on voit toujours la Terre.
Oui, c'est vrai.
Mais alors que quand on ira vers Mars, on ne la verra plus.
J'aurais mieux fait de ma Terre.
Non, parce que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas si évident de se rendre compte de ça. Et donc ça va changer les choses. Cela dit, moi je pense que Magellan, à l'époque, quand il traverse pour la première fois le Pacifique avec son équipage, il quitte aussi le rapport à l'aspect terrestre. Donc peut-être qu'on a des choses à aller apprendre. Et moi je crois que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on va construire le futur de l'exploration en ayant aussi la conscience que l'humain a déjà exploré beaucoup dans son histoire et qu'on doit être capable de considérer ça. Moi je suis admiratif à un niveau sans précédent, des Messner, des Bombard, des Siffre, justement, vous avez cité les Kraft, parce qu'ils ont su, à un moment donné, dépasser ce qu'on pensait impossible. Messner, on lui dit, tu vas mourir si tu vas à 8000 mètres sans oxygène. Siffre, on lui dit, tu vas mourir si tu vis hors de temps. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bah non, on peut tenter quelque chose, quoi.
Alors, aujourd'hui, le record de longévité dans une grotte est détenu par une athlète espagnole, Beatriz Flamini. Alors, elle a passé 500 jours sur Terre, soit un an. Et 5 mois, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prouesse?
D'abord, ça reste quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. C'est difficile à en tirer des conclusions parce qu'on n'a pas tellement les données scientifiques qui en sont sorties. On ne sait pas très bien quelles ont été la motivation pour Béatrice de faire ça. Cela dit, ça montre bien une chose. En matière d'exploration, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de genre, tout le monde peut faire des choses extraordinaires et moi j'ai été fasciné par Béatrice qui s'est enfermée pendant 500 jours parce que elle a réussi quelque chose que personne n'a fait avant elle et ça reste fabuleux pour ça.
En fait, vous avez déjà rencontré Michel Siffre?
Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Oui.
Ah, racontez-moi.
Ça a été des rencontres difficiles parce que, vous l'avez dit à la fin de votre reportage, Michel Siffre était devenu quelqu'un de triste parce qu'il a été oublié par la communauté. Il a été totalement oublié, il avait encore des amis, heureusement, mais il était très isolé, très seul. Et je crois que quand on a fait Deep Time, ça a résonné en deux parties chez lui. Une partie admirative, il a dit « Ah, ce que j'ai fait se poursuit grâce à ça ». Donc il était fier de ça. Et puis un peu de tristesse, d'ailleurs il me l'a dit « Mais pourquoi j'y ai pas pensé de le faire en groupe ?»
Et cette fin de vie, cet oubli, ça l'a rendu amer, j'imagine.
Amer, je sais pas, triste en tout cas. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose que personne avant lui avait fait, et je crois qu'on n'a pas su lui rendre hommage, on n'a pas su aussi l'aider. On aurait dû normalement financer ses prochains projets en tant que France, en tant que pays, parce que ce qu'il a découvert, ça reste unique. Il y a encore tellement de choses à découvrir sur la chronobiologie, et on l'a un petit peu lâché en race campagne. Et je crois que parce qu'il est parti à la NASA en 72, on s'est dit, maintenant, t'avais lu chez les Américains, mais reste-y. Et ça, c'est peut-être une des plus grandes erreurs qu'on a fait.
Ah oui, mais quelle place il occupe maintenant dans l'esprit des explorateurs, des scientifiques?
Malheureusement, comme beaucoup d'explorateurs, sa mémoire est plus importante que son vécu. Et aujourd'hui, grâce à votre émission, entre autres, on voit qu'on est en train de se souvenir de Michel Siffre, on est en train de se dire quel homme extraordinaire et quel dommage qu'on n'ait pas pu s'interroger quand il était là.
Et je reviens à vous, vous avez fait de nombreuses explorations dans des contextes géographiques difficiles. Quelle région est la plus difficile?
Le très chaud, sec, les grands déserts comme le Dartelout-Oneran que j'ai traversé. Là, la chaleur sèche, elle coupe les fonctions cognitives de manière assez hallucinante et on n'est plus capable de penser de manière correcte. Clairement, la chaleur est le vrai défi de l'humain. Et malheureusement, on sait que ça ne va pas être quelque chose qui va se réduire dans le futur. Donc, gros sujet. Et ensuite, la Patagonie. C'est l'endroit le plus merveilleux, le plus beau du monde, mais aussi le plus difficile parce qu'on a de tellement grandes quantités de changements climatiques dans la même journée, enfin, changements météorologiques, pardon, dans la même journée, qu'on ne sait plus où on va. Et c'est assez fabuleux et à la fois terrifiant.
Et vous avez eu à lutter contre le froid également?
Oui, j'étais à moins 60 degrés en Sibérie orientale, entre autres. Là, on est dans des températures... j'ai passé 30 jours dans une tente à moins 60 degrés. Là, on est dans des températures, on ne peut plus dormir, on ne rejoint plus le sommeil paradoxal. Donc, on s'épuise en permanence. C'est assez intéressant à vivre, mais je ne le souhaite à personne.
Je ne vais pas vous demander ce qui est plus difficile à supporter, les excès de froid ou de chaleur, parce qu'on ne va pas faire une hiérarchie, les deux sont...
Les deux sont terribles, les deux sont terribles. Quand on dépasse les moins 40 ou les plus 40, on rentre dans des territoires qui ne sont vraiment pas faits pour l'humain.
Parlez-moi pour terminer de votre institut, ce que vous y faites au quotidien et ce qu'on en ressort.
Alors, ce qu'on y fait, c'est qu'on essaie de mieux comprendre les mécanismes adaptatifs humains. On fait des études sur la neurobiologie, la physiologie, le système social, pour voir comment, encore une fois, on est capable de trouver des solutions dans des contextes de changement, et surtout, comment est-ce qu'on peut changer avant d'avoir vécu quelque chose. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le climat. Comment est-ce qu'on va aider les humains à changer des comportements combien même ils ne sont pas encore connus ce qui pourrait arriver demain. Parce qu'aujourd'hui, on change beaucoup parce qu'on a connu un vécu difficile. Et nous, on doit pouvoir changer avant de l'avoir connu. C'est notre travail. Et on essaie de le faire au quotidien.
Écoutez, tout ça a été passionnant. Merci infiniment. Christian Clos, je rappelle que vous êtes explorateur, chercheur, conférencier, scénariste et fondateur de Human Adaptation Institute et membre de la Société de Géographie.
Merci beaucoup.
Un homme complet. Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Michel Siffre, une brève histoire du temps. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.